Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, la démence est partout, c'est rassurant.
Oui, absolument, vous allez voir. La science a besoin de votre cervelle et, tant qu'à faire, d'une cervelle saine. Voilà en substance résumé cet article passionnant du magazine en ligne Undark, qui est repéré par le Courrier International, expliquant comment les scientifiques cherchent aujourd'hui à mieux comprendre la démence. L'étude des animaux n'étant pas toujours suffisante, les chercheurs ont besoin pour cela de tissus humains. Sauf qu'ils se sont rendus compte que les cerveaux qu'ils étudient présentent trop souvent eux-mêmes des pathologies. Beaucoup plus rares en revanche sont les cerveaux relativement sains qui permettraient de déterminer plus précisément les causes de la démence et surtout les moyens de s'en protéger. Or, même s'ils ont besoin de cerveaux malades, les chercheurs ne peuvent avoir une compréhension parfaite d'une maladie sans les comparer à des cerveaux sains. D'où la mission que s'est donnée un neurologue américain, David Bennett, de convaincre des gens de donner leur cerveau à la science. Problème, il est beaucoup plus facile de recruter des donneurs de sang que de sa propre cervelle. Sauf que le neurologue a découvert un excellent filon en prenant conscience que les religieux, notamment, pouvaient être très généreux avec leur corps lorsqu'il s'agit de servir l'intérêt général. Et c'est ainsi, raconte toujours l'article, que David Bennett multiplie désormais les conférences dans des salles remplies de religieuses. Et c'est ainsi qu'avec 370 mètres carrés d'armoires et de congélateurs remplis d'échantillons, sa collection d'un genre un peu particulier est à présent l'une des nombreuses banques de cerveaux américaines qui servent à réaliser des expériences neurologiques. Alors, pourquoi vous parlez ce matin des recherches scientifiques sur la démence et surtout du manque de cervelle saine pour y parvenir? Tout simplement parce que l'actualité regorge une fois de plus d'extravagances en tout genre. Prenez par exemple l'Allemagne où le séisme vécu lors des législatives avec le repli des partis traditionnels et la partie de l'extrême droite n'en finit plus de créer des secousses. La nervosité est désormais perceptible partout, note ce matin député Die Welt. Dernier épisode en date vendredi dernier, l'ex-chef du parti social-démocrate allemand Martin Schulz a finalement annoncé qu'il renonçait à entrer dans le prochain gouvernement. Ultime volte-face donc. Pour celui qui avait dans un premier temps exclu l'idée d'entrer dans un gouvernement Merkel, avant dans un second temps de se raviser, pour finalement sortir par la petite porte deux jours seulement après un accord de gouvernement pour renouveler la grande coalition. Sauf que ce départ sans gloire ne fait pas non plus les affaires d'Angela Merkel qui essuie critique après critique. Depuis l'annonce de cet accord de coalition, plusieurs figures de son propre parti conservateur l'accusent en effet d'avoir fait trop de concessions aux sociaux-démocrates, au point qu'hier, Angela Merkel a donc dû intervenir sur la chaîne de télévision publique ZDF pour y réfuter l'impression grandissante d'usure du pouvoir. D'où également cet article à lire dans les colonnes du Financial Times et intitulé « Quand la Grande-Bretagne exporte son chaos politique en Allemagne ». Pourquoi ? Parce qu'au Royaume-Uni aussi, le parti conservateur est en train aujourd'hui de se déchirer autour de la question du Brexit, certains craignant que Theresa May ne revienne sur son engagement de quitter l'union douanière.
Et puis toujours au Royaume-Uni, le scandale autour de l'organisation caritative Oxfam est à la une ce matin de toute la presse, et ce pour la troisième journée consécutive.
Oui, selon The Times, qui est le premier à révéler cette affaire, plusieurs responsables de l'ONG britannique ont eu recours au service de prostituées à Haïti en 2011. Une source cité par le quotidien dit avoir vu notamment une vidéo d'une orgie avec des filles portant des t-shirts à l'effigie d'Oxfam dans une villa louée par l'association avec des fonds caritatifs. Or, non seulement la direction d'Oxfam, une fois les faits connus, a préféré renvoyer les employés incriminés sans aucune sanction disciplinaire pour ne pas entacher la réputation de l'association. Mais le journal de Londres affirme ce matin qu'avant même que ces deux employés ne soient impliqués dans ce scandale, la direction était au courant de leur comportement préoccupant. Un rapport confidentiel de l'enquête sur Haïti indique que leur recrutement avait permis d'identifier certaines faiblesses, ce qui n'a pas empêché donc la direction de les nommer à des postes humanitaires de haut niveau dans le pays frappé par le tremblement de terre.
Et aux États-Unis, Thomas, là c'est la Maison-Blanche qui se retrouve secouée par une affaire de violence conjugale.
Oui, après la démission la semaine dernière de Rob Porter, secrétaire personnel de Donald Trump, accusé par deux ex-épouses d'agression physique et d'abus psychologiques, voilà que le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, se retrouve à son tour dans la tourmente. On lui reproche d'avoir été au courant du passé sulfureux de Rob Porter, mais de l'avoir laissé malgré tout à un poste d'influence. Hier, plusieurs responsables de la Maison-Blanche ont donc tant bien que mal cherché à défendre la gestion de ce scandale par l'exécutif pour justifier le soutien prolongé de la Maison-Blanche à Rob Porter. Une conseillère de Trump, interrogée sur CNN, CNN a affirmé n'avoir eu pleinement connaissance de l'ampleur de ces accusations qu'une fois les articles parus dans la presse.
Enfin, hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui prévenu que son pays allait continuer à mener des raids aériens en Syrie, et ce malgré la perte d'un avion de chasse abattu par un missile syrien samedi dernier.
Et selon la presse, l'avion revenait d'une action de représailles après la violation de l'espace aérien israélien par un drone iranien lancé depuis la Syrie. Alors risque-t-on une nouvelle escalade régionale? C'est évidemment la question qui parcourt toute la presse. Quoi qu'il en soit, pour The Jerusalem Post, ces derniers développements montrent essentiellement que les masques sont enfin tombés. Comprenez, l'Iran utilise clairement la Syrie comme une base de lancement de ses opérations contre l'État hébreu, affirme le quotidien proche des conservateurs, en citant un communiqué de l'armée, de préciser encore pour la première fois, l'État hébreu affronte son ennemi de toujours, l'Iran, après des années de guerre de l'ombre. Nous n'avons cessé de nous rapprocher de ce moment et maintenant nous sommes face à face.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture.